journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. Pendant 30 minutes, l'antenne d'Africa numéro 1 vous appartient aujourd'hui. Dans le JDA, nous attendons vos avis et commentaires sur les défis qui attendent Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Alors que Soumaïla Cissé continue de contester le résultat des élections, Ibeka a prôné l'unité nationale lors de sa prestation de serment mardi 4 septembre au Palais de la Culture Amadou Ampateba à Bamako. Réélu pour un mandat de 5 ans, Ibeka s'est réjoui notamment dans son discours d'avoir sauvé l'intégrité du territoire. Alors qu'en pensez-vous? Quels sont les chantiers qui attendent le président Ibrahim Boubacar Keïta? Application de l'accord d'Alger, recrudescence de violence dans le centre du pays, la question sécuritaire doit-elle être, selon vous, la priorité de ce nouveau mandat? Et que pensez-vous du maintien du Premier ministre Soumaïlou Boubaï Maïga? Peut-on parler d'une certaine continuité? Vos avis nous intéressent et pour nous les donner, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et si vous nous écoutez depuis partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Mais avant de parler du sujet du jour, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa numéro 1.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, amis du JDA, bonjour. En fait, j'adresse ce message particulièrement à M. Laloubo, qui a fait une émission hier sur le Cameroun, dont je m'interrogeais un peu sur le choix de son panel, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il invite M. Ngannan, qui a quand même des prises de position plus que contestables, et je ne comprends pas. Parce que cette personne, déjà, bon, qui se proclame comme enseignant des Blancs, c'est lui qui l'a dit, hein. Donc, s'il y a vraiment des propos vraiment d'une violence extrême. Et ça fait deux fois, je me rappelle d'avoir écouté une émission où un jeune Camerounais l'avait repris sur sa propension toujours à désigner les Babiligués comme étant des victimes, je ne sais de quoi. Et surtout, qui appelle quasiment au meurtre de certains soldats. Donc, je crois quand même que la chose a un peu duré parce qu'on entend trop cette personne. On l'entend un tout petit peu trop, parce que déjà, même en termes d'expression, je ne trouve pas ses qualités compréhensibles parce que ses prises de position sont toujours très difficiles à cerner. Voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en composant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui, nous attendons vos réactions sur les défis qui attendent Ibrahim Boubacar Keïta au Mali pour son second mandat. La Cour constitutionnelle l'a proclamé le 20 août dernier vainqueur de la présidentielle avec 67,16% des suffrages contre 32,84% à son rival, l'ancien ministre des Finances, Soumaïla Cissé, qui conteste toujours les résultats de ces élections. La poursuite de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation reste ma priorité, a déclaré Ibrahim Boubacar Keïta lors de sa prestation de serment. Alors qu'en pensez-vous? Quelles doivent être les priorités du président malien? On en parle tout de suite avec Diomo de Beng. Bonjour Diomo de Beng.
Oui, bonjour Madame Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs d'Africa numéro 1. Je pourrais pas commencer cette émission, Madame Stéphanie, permettez-moi de dire bonne rentrée à tous les élèves sur le territoire français et bonne rentrée aussi à tous ceux qui ont repris le travail, y compris Africa numéro 1, sans honnêteté, bien sûr, Stéphanie, toi-même.
Merci beaucoup. Ça fait quelques semaines maintenant que nous sommes rentrés. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée aussi, mon cher Diomo de Beng. Vous avez de la chance.
Voilà, merci.
Donc, alors, dites-nous, pour vous, la priorité concernant le Mali, c'est l'unification du pays, c'est bien ça?
Oui, c'est l'unification du pays. Pourquoi j'ai dit unification du pays? Parce que le Mali est en train, je dirais même pas à traverser, le Mali est en train de traverser une période de crise militaro-politique, je dirais que attaqué par le Nord, par les rebelles et tout ça. Et tout ce qui fait que ça va mettre en péril la sécurité dans toute la sous-région, je ne peux pas dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas impactée parce que le Mali fait frontière à la Côte d'Ivoire, que je protège beaucoup. Moi, je dirais que le président Ibrahim Boubacar Keïta doit privilégier le dialogue politique et l'unification du pays. Parce que nous avons vu que ces élections ont été entachées. Je dirais bien, je vais pas me mettre à la place des observateurs internationaux et tout ça qui sont arrivés. Mais en vrai, il faudrait qu'on voie la vérité. Enfin, ça a été entaché de plusieurs irrégularités. Ça, c'est sûr et certain. Mais moi, je pense que quand les résultats sont déjà donnés, j'appelle l'opposant, Monsieur Soumaïla Cissé, à recourir au dialogue et aux voix juridiques qui réalise le Mali. Je suis d'accord aujourd'hui qu'il conteste ce résultat et que déjà l'opinion internationale a déjà validé, le Mali a déjà validé, le président Ibrahim Boubacar Keïta a déjà prêté serment. Moi, je pense qu'il faut faire tabra.
Vous dites finalement, ce qu'on entend, Diomo Debeng, vous dites la priorité c'est l'unité, la main tendue d'Ibeka à Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé doit tourner la page, on entend bien. Merci Diomo d'avoir ouvert cette émission. Je demande à Yaya Fongbe qui nous écoute depuis Abidjan de patienter un petit peu. On va écouter Monsieur Fofana. Je rappelle le numéro pour intervenir, 01 55 07 58 00. Monsieur Fofana, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Fofana. Bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous dites l'ensemble des Maliens doivent se mettre ensemble.
Effectivement, l'ensemble des Maliens doivent se mettre ensemble, y compris tous les Africains, pour pouvoir combattre le fléau du terrorisme au Mali et aider Ibeka à protéger davantage le peuple malien, car c'est ensemble qu'on peut trouver la solution. Ce n'est pas une affaire du chef de l'État. Donc, les élections sont passées. Il faudrait qu'on tourne la page des élections pour qu'on passe à l'avenir du Mali.
Alors justement, Monsieur Fofana, pensons à l'avenir du Mali. Si je vous entends bien, puisque vous parlez du fléau du terrorisme, pour vous, l'une des priorités de ce mandat doit être la sécurité et la lutte contre le terrorisme, c'est bien ça?
Effectivement. Ouais. Il faut l'aider dans cette tâche-là, parce que s'il n'y a pas de paix, quel que soit le programme de développement qu'il va mettre en place, ça ne s'est pas abouti. Parce que le Mali ne se limite pas qu'au sud seulement. Il y a le nord, ce sont des Maliens qui ont voté, il y a des Maliens qui se trouvent là-bas. Donc, ensemble, il faudrait qu'on trouve la formule pour pouvoir aider le chef de l'État à quitter dans cette affaire du terrorisme.
Et sur le plan économique, M. Fofana, vous ne voyez pas des priorités?
Mais bien sûr, mais si il n'y a pas de paix, il ne peut pas avoir d'économie. On ne peut pas parler d'économie. S'il n'y a pas de paix, il ne peut pas avoir d'économie.
C'est très clair.
Voilà. Donc, mais... ce qui est prioritaire au Mali présentement, c'est la paix.
La paix.
Donc, les Maliens ont déjà trop de problèmes. Il faudrait qu'on tourne la page des élections pour qu'ensemble, on aille parler, dialoguer avec nos frères du Nord, pour qu'ensemble, on puisse développer le Mali.
C'est très clair. Merci, Monsieur Fofana, de votre intervention dans ce journal des auditeurs. Monsieur Fofana, qui disait que la paix devait être la priorité, il a évoqué le dialogue avec le Nord. Je rappelle ce qu'a déclaré Ibeka lors de sa prestation de serment. Il a dit la poursuite de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation reste ma priorité. Il a aussi ajouté, j'exigerai de chacun la plus grande des loyautés au risque que ceux qui pratiquent le double jeu s'excluent définitivement de ce processus. On le sait, l'ONU a dénoncé il y a quelques jours dans un rapport l'implication de certains signataires de l'accord dans des trafics, notamment des trafics de drogue. Je pense, merci encore à Monsieur Fofana, n'hésitez pas à appeler nous pour réagir. Quelles doivent être les priorités du président malien? 01 55 07 58 00. Mohamed, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Stéphanie. Comment
alors,
allez-vous?
Je vais très bien, merci beaucoup. Vous vous dites, vous n'attendez rien du président Ibrahim Boubacar Keïta, donc vous ne voyez aucune priorité, si j'entends bien.
Je n'entends rien, absolument rien d'Ibrahim Boubacar Keïta pour la simple raison que lui-même, c'est son confort qui lui intéresse, sinon le Mali ne l'intéresse même pas. J'entends les gens qui disaient qu'il faut l'aider, il faut l'aider. Comment aider un président qui a été élu par la fraude? D'accord? Donc, à partir du moment où le président de la République, les garants de la Constitution et le premier à violer la Constitution, je pense que le peuple doit tout faire pour le faire dégager. Il n'y a pas question parce que sinon ça ne sert à rien, ça va continuer. Celui qui va lui succéder va faire la même chose. C'est un exemple. Là, le monde avance, nous on est en train de régresser. Ça c'est entre parenthèses.
Alors finalement, ce qui s'entend bien, Mohamed, aussi, ce que vous dites, c'est que l'une des priorités d'Ibeka que vous contestez, j'ai bien entendu, finalement, doit être aussi la démocratie malienne, le respect de l'élection et peut-être la main tendue vers Soumaïla Cissé.
Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne dis pas qu'il attend la main à Soumaïla Cissé. J'ai dit qu'il faut qu'il parte parce qu'il n'a même pas gagné. Si, parce qu'on est au pouvoir, le peuple vote et puis et on fait le hold-up électoral, ça sert à quoi d'organiser une élection? C'est cette question que je me pose aujourd'hui. Parce que nous savions tous, même ceux qui disent qu'Ibeka a gagné, savent conscientieusement qu'Ibeka n'a pas gagné. Et il ne peut pas gagner. Comment fait-il que trois semaines avant, le monsieur, il est l'homme le plus détesté, et que le jour de l'élection, il est le plus gagnant? Il y a certains villages où il n'y a pas 25 personnes, on nous parle de 3000. Il y a certains villages où le nombre de votants sont plus nombreux que le nombre de la population, y compris les nourrissons. Après, on va nous dire qu'il n'y a pas eu de fraude. Ça, c'est de l'amusement. Maintenant, lui, il est venu en 2013. Aujourd'hui, quelle est la situation du Nord? Quelle est la situation au Centre? C'est encore pire, qui signifie que la situation du Nord ne l'intéresse même pas. Ce n'est que dans sa bouche. Ce n'est que dans sa bouche. Et moi, j'ai dit au peuple malien, on s'est saigné en 91, pour dégager Moussa Traoré, qu'aujourd'hui, M. Ibeka le prenait comme un républicain, si réellement on ne fait rien, qui signifie que nos parents qui ont versé leur sang pour cette démocratie se font tuer pour rien du tout.
C'est très clair.
Le monde avance, nous, on régresse. L'argent qu'Ibeka a distribué pour la réélection, l'argent qu'Ibeka a partagé pour sa réélection, si réellement il a fait quelque chose avec cela, il n'avait même pas besoin de faire des campagnes.
Merci Mohamed de votre intervention. On entend dans vos propos, Mohamed, finalement, vous dénoncez des fraudes dans l'élection présidentielle. Et voilà, votre priorité pour vous, c'est au-delà de la paix, c'est surtout la démocratie au Mali et le respect de vote de chacun. Merci beaucoup Mohamed de votre intervention. Bonne journée. On va retrouver Yaya Fongbe du côté d'Abidjan qui s'inscrit en nous laissant un message sur Facebook. Yaya, bonjour.
Bonjour madame.
Yaya, vous faites un lien très clair et on l'entend dans les analyses parfois qu'on peut lire dans la presse. Vous dites que la lutte contre le terrorisme passe par des efforts au niveau social, c'est-à-dire des emplois pour les jeunes, c'est bien ça?
Oui, d'abord, le niveau social, parce que quand tu vois qu'il y a des terroristes, c'est qu'il manque de l'emploi. C'est pourquoi on arrive facilement à l'exploiter la jeunesse. Pourtant, si elle est occupée, la jeunesse ne va pas s'intéresser à ça. Parce qu'il ne voit pas qu'il travaille, il va laisser son travail et puis il faut aller s'occuper à autre chose. Donc, d'abord, la Ibeka a deux priorités d'abord. Cohésion sociale et maintenant, dialogue politique entre lui avec les leaders de l'opposition. Si la s'il réussit à se défaire, je crois que le Mali va aller de l'avant. Sinon,
la deuxième, Yaya Fongbe, excusez-moi, j'ai mal compris. Votre deuxième priorité, vous disiez, c'est la lutte contre la corruption, hein, c'est bien ça?
Non. Oui. Ce sont des partis qui peinent un peu en Afrique. Donc, vraiment, ça a fait beaucoup de défauts. Maintenant, s'il a pu résoudre à ces deux niveaux, je crois que bien. Avec l'ensemble des Maliens, que ce soit l'opposition et que tout le monde tend la main ensemble pour réellement qu'il y ait, comme on appelle, une cohésion sociale de vrai, parce que pas de cohésion sociale partitive, parce que les gens, ils vont dire oui, aujourd'hui, non, ah ouais, nous sommes d'accord, puis maintenant, demain, ils vont faire la même chose. Moi, je crois que c'est vraiment en Afrique qu'on doit essayer de ce qui est déjà passé, on ne passe ici, maintenant, on avance. Parce que, d'abord, les Nord, et là, tout le monde savait que le Nord, le Mali n'est pas encore, comment on appelle,
pacifié, désarmé.
Pacifié, puis maintenant, vous êtes allé à l'élection. Et vous attendez à quoi? Il y a une partie qui a les armes. Et puis maintenant, vous partez en élection. Qu'est-ce que vous voulez? Forcément, il va y avoir des fraudes. Donc, les Maliens, mais ils savaient déjà d'abord avant d'aller en élection. Donc, ils ne voient pas pourquoi la raison maintenant, ils viennent se plaindre pour dire qu'il y a eu la fraude. C'est normal. que nous avons vécu la même chose ici. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, il faut que les gens, d'abord, ce qui est déjà passé, on laisse le passé et puis maintenant, on essaie de penser à l'avenir. Et voilà, comme ça, l'Afrique va avancer.
C'est très clair. Merci, Yaya, d'avoir enrichi ce débat de votre point de vue depuis Abidjan. Bonne journée à Babi, Yaya.
Merci,
au revoir. C'est grésillé un petit peu, on remercie. Yaya, on continue de parler des défis qui attendent Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, vous l'avez entendu, pour Yaya, parmi les priorités, la cohésion sociale et la lutte contre la corruption. On se souvient que durant son premier mandat, les autorités maliennes avaient été épinglées sur la gestion dans certains ministères. Alors, qu'en pensez-vous? On donne la parole dans quelques instants à Koulibaly Assavané. Mais avant cela, on écoute Guy. Guy, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Guy, est-ce que vous êtes là? Parce que je vous entends d'un peu loin.
Je suis là, Madame Hartmann, je suis là.
Parfait, bienvenue dans le JDA. Vous vous dites, Ibeka a l'occasion de rentrer dans l'histoire en faisant ce qu'il faut pour le Mali.
Oui.
Que doit-il faire? Par quelles actions, quelles doivent être ses premières actions?
Pour moi, comme je disais, je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Vraiment de comment tout ça s'est fait, mais au risque de, je ne veux pas blesser ceux qui sont pro Smaïla Cissé, mais je dois seulement dire que les élections sont faites, ça a été validé, voilà. Donc maintenant, c'est pas que ça ne sert plus à rien de continuer à protester, mais on sait très bien que tout cela, ça n'a
pas... Est-ce que Ibeka doit faire un geste justement envers cette opposition, voilà, cet opposant qui continue à contester les résultats?
Voilà, je pense que c'est il a l'opportunité de rentrer dans l'histoire de son pays. On se souviendra plus de son dernier mandat s'il fait ce qu'il faut pour son peuple, pour son pays, que ce que son peuple lui reproche, en tout cas une partie de son peuple lui reproche depuis 5 ans. Il a l'opportunité de faire ce qu'il faut. J'ai lu quelque part que pour que un pays soit fort, il faut une armée forte. Voilà. Et ça, c'est un appel que je lance à toute l'élite africaine. Il est temps que nous ayons une armée forte dans chaque pays, et ça, on peut le faire. Il est important que nous changeons notre façon de nous voir. On est capable de faire beaucoup de choses, et pour que nos pays avancent, il nous faut une armée forte. Donc, je pense qu'il devrait commencer aussi par vraiment mettre en place une armée capable de donner une sécurité importante au Mali, et après, s'occuper de tout ce qui est social, du peuple, le travail, les investissements, les investisseurs. Il a l'opportunité de le faire. À lui maintenant de démontrer que ce qu'on lui reprochait peut-être avant, et je dis bien peut-être avant parce que je ne sais pas, je ne connais pas, mais il peut faire que son pays avance, et c'est lui qui a les cartes en main. Et au peuple aussi de faire ce qu'il faut, de lui donner aussi peut-être ce crédit qu'ils n'ont pas donné, parce que bon, on lui reproche beaucoup de choses. Mais il peut maintenant le faire parce qu'il lui reste encore, il a maintenant 5 ans, à lui de rentrer dans l'histoire, parce qu'on se souvient toujours des dernières choses que de ce qui a été fait avant.
C'est très clair, c'est très vrai. D'ailleurs, Guy, vous vous dites finalement, Guy, que Ibeka, voilà, les moyens d'entendre les critiques, voilà, je vais y arriver, d'entendre les critiques formulées par certains et de rectifier le tir après ce premier mandat. Merci beaucoup, Guy, pour votre contribution à cette émission. Bonne journée à vous, Guy. On va écouter Koulibaly. Koulibaly, bonjour.
Oui, bonjour Madame Hickman.
Bonjour,
je remercie mon frère Guy qui vient de parler.
Vous vous contestez toujours l'élection
des
pays.
Oui, Madame. Bon, en tant qu'Africain, on n'est pas là pour les démocraties. Hein, on est dans les démocraties, que ça soit il est en faveur du Ibeka, c'est son choix. Mais en tant que nous, les Maliens qui vivent dans les galères, c'est nous qui connaissons l'autre problème par rapport aux autres Africains. Mais même si il est en faveur de Ibeka, ça ne nous dérange pas. Donc, ce que je vous dis, Madame Hickman, une équipe qui gagne, on n'a pas besoin de sang jumeau. Vous voyez?
Alors, justement, Koulibaly, puisque vous êtes plutôt critique sur le premier mandat, là, on a appris la nomination, le maintien de Tsoumeilou Boubaïmaga. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, du coup, on va vers une sorte de continuité?
Oui, Madame. Le peuple ne sont pas des armes. C'est Ibeka qui a des armes, qui a de l'armée. Et donc, ici, Ibeka il a fait son investisseur le 4 ans. Donc, les Maliens, ils ne le connaissent pas comme un président. C'est clair et net. Ibeka, il a essuyé 5 ans. Il n'y a personne, aucun opposant qui a dérangé Ibeka. Il a géré le pays tout seul. Donc, quand il dit que j'ai donné ma main à mon frère à la langue française, mais la langue bambara, il a insulté, il a agressé tous les peuples. Vous voyez, Ibeka, il a une double langage. Depuis 5 ans, et Ibeka, il n'arrête pas d'agresser Soumaïla Cissé. Si c'est vrai ou faux, il y a des Maliens qui veulent nous parler. Ibeka, ce n'est pas un président démocratie. Et moi, je vous dis, tantôt, pour répondre Guy, pour l'armée forte, moi, je vous dis, aucune armée africaine qui peut faire face à ces djihadistes qui est aidé par la communauté internationale. Il faut être clair. L'armée malienne est forte. Vous voyez, et je vous dis, tantôt, Ibeka, il a utilisé beaucoup l'argent du public pour acheter les populations et les marabouts, je vous dis, et le fondatrice de Bamako. Mmh. Donc, c'est l'argent, on peut construire l'école. Comme il y a un Malien qui vient de parler, mon frère qui vient de parler tout à l'heure, il y a plus de 24 milliards. Mmh. Donc, il y a beaucoup de choses à faire.
Vous insistez, Koulibaly, finalement, sur la bonne gouvernance hein, et les priorités aussi dans le domaine de l'éducation. Merci, hein, Koulibaly, de votre intervention. Il nous reste quelques minutes. On va retrouver Savané. Savané, bonjour. Ensuite, on écoutera Mamadou et Mamadou.
Oui, bonjour, Madame Hartmann.
Bonjour, Savané. Vous dites qu'il faut laisser du temps à Ibeka. C'est son deuxième mandat. A-t-il vraiment encore beaucoup de temps?
Non, en fait, quand je dis du temps, parce que vous savez un peu, Madame Hartmann, un président qui vient au pouvoir avec son premier mandat, c'est pas facile de résoudre tous les problèmes. Et vous savez très bien qu'Ibeka, quand il a pris le pouvoir, au Mali, déjà, il y avait un grand problème avec la crise qui sévit au nord. Et il est venu d'abord, il a essayé de redresser ça. Et moi, je pense qu'avec ce deuxième mandat que les Maliens lui ont donné, et les Maliens, ils ont fait un bon choix parce que déjà, pourquoi ils ont fait un bon choix? Parce que déjà, il sait ses erreurs et il sait ce qu'il doit faire. Donc, à travers ce deuxième mandat, je pense qu'avec ce deuxième mandat, il va essayer de résoudre tout ce qu'il n'a pas pu faire ou tout ce qu'il a commencé et qu'il n'a pas terminé.
Notamment donc, l'accord d'Alger, j'imagine, voilà, Savané, qui reste encore, qui a été négocié, qui reste à être appliqué. Voilà. Vous pensez que d'ici quelques années, d'ici quelques mois, la situation dans le nord du pays va changer?
C'est sûr que ça va changer, c'est sûr. Je sais que c'est sûr. Avant son dernier mandat, Ibeka, il va redresser le Mali sera sur le bon pied. Et parce que, imaginez un peu, si un autre président vient, c'est tout recommencer à zéro, et tout refaire à zéro, il faut encore. Vous voyez, alors qu'actuellement, Ibeka, déjà, il est déjà en contact avec les négociateurs, il connaît déjà presque tout du dossier. Donc, moi, je pense que, franchement, les Maliens, ils ont fait un bon choix. Et j'espère que pendant ces 5 ans, vous verrez que le Mali va être, franchement, un pays. Très bien, un pays.
On vous rappellera dans 5 ans, mon cher Savané, pour faire le bilan hein, justement de ce mandat. Et puisqu'il est question aussi de l'accord d'Alger et de la situation dans le nord du pays, plusieurs représentants de la coalition des mouvements de la Zawad avaient fait le déplacement à l'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta mardi. Merci beaucoup, Savané. On va écouter Mamadou. Mamadou, bonjour.
Oui, allô?
Oui, bonjour Mamadou, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous dites finalement, les défis restent les mêmes qu'en 2013.
Oui.
En gros, le premier mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta, pour vous, n'a servi à rien.
Pour commencer d'abord, je suis malien, pas politique, je n'ai pas voté, ni pour Ibeka, ni pour Soumaïla. Moi, je me demande déjà comment ce monsieur s'est retrouvé à la tête du pays pour un deuxième mandat, parce que constitutionnellement parlant, les Maliens, à partir de 72 ans, on ne peut plus se présenter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, pour moi, Ibeka devrait... Parce que le Mali, c'est un pays de consensus, naturellement. On a vu ce que Soumaïla, il a fait, les gestes grandioses qu'il avait fait la première fois. Aujourd'hui, qu'il conteste les élections, ça fait son problème. Mais il y a eu un président élu, maintenant, qui a été accepté par la communauté internationale. Moi, je trouve que Ibeka, c'est un deuxième Bouteflika. Et on nous parle d'accord d'Alger. En tant que Malien, je ne vois pas comment est-ce que nous, on peut s'en sortir, vu que Ibeka, il est très mal entouré. Il est très mal entouré. Bouteflika, ça fait plus d'une quinzaine d'années, il ne fait rien. Mais c'est son entourage qui agit en son nom. Ibeka, lui, ne peut pas se permettre, à son âge et vu son état de santé. Personnellement, je dis comme ça. Hein. Moi, je trouve que c'est limite. J'ai vraiment peur pour une fin comme ATT.
Il faudrait vérifier, hein, effectivement, dans la Constitution, la limite d'âge hein, pour se présenter à la présidentielle, je crois que c'est 75 ans, mais je suis pas sûre, Mamadou, Mamadou qui finalement a conclu son propos, si j'ai bien entendu, par la crainte que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta finisse comme celui d'Amadou Toumani Touré. On se souvient malheureusement du coup d'État de mars 2012. Merci beaucoup Mamadou, c'est votre avis, bonne journée à vous. Il nous reste quelques minutes pour Issa Mamadou, numéro 1 d'ailleurs, qui attend depuis plus longtemps, et ensuite on terminera avec Issa. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphane.
Bonjour Monsieur Mamadou, vous dites la sécurité doit être la priorité d'Ibrahim Boubacar Keïta. On a évoqué le Nord, les accords d'Alger, on aurait pu aussi parler du Centre.
Effectivement. Au fait, ce que je voulais souligner, c'est pour dire que le Mali ne peut pas connaître la sécurité sans aller voir l'Algérie pour signer vraiment l'accord de l'Algérie. Ça, c'est un. Et de deux aussi, aujourd'hui, Ibeka, il est le seul qui sait qu'il faut au Malien. Il doit signer, il doit signer déjà un accord militaire avec la Russie, ce que le Burkina Faso a fait, s'il veut vraiment avoir une armée forte. Et de deux, ce que je peux signifier, il est obligé de composer avec l'opposition parce qu'il a été très, très mal élu. Moi, je ne dis pas qu'il a triché les élections. Je dirais qu'il a été très mal élu parce que avec 33% et 34% de taux de participation, il a été très, très mal élu. Aujourd'hui, les supporters de Smaïla Keïta, ils peuvent se dire que même si c'était Smaïla Keïta qui était élu...
Smaïla Cissé, Mamadou.
Oui, Smaïla Cissé qui était élu avec 34% de taux de participation. Vraiment, c'est un président qui est très, très mal élu. Et s'il y a, on va dire, 75% de la population qui ne reconnaît pas son pouvoir, ça va être vraiment difficile pour lui. Donc, moi, de un, c'est de signer un accord militaire avec la chose qu'on appelle la Russie. C'est que le Burkina Faso a fait. Et de composer à 1000%, je dis bien à 1000% avec l'Algérie. On sait très bien l'accord qui se passe entre l'Algérie et la France. Et aujourd'hui, c'est comme si c'est le Mali qui est à couteau tiré, qui est entre ces deux pays-là, il faut retourner vers l'Algérie et puis essayer de voir vraiment.
Parce reprendre la main.
Voilà, parce que ces terroristes, les bases arrières, c'est en Algérie.
C'est très clair, merci. Voilà, ouais. Merci beaucoup Mamadou pour votre intervention. D'ailleurs, on se souvient que rapidement, Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu, non pas en Algérie, mais en Mauritanie un peu après son élection. On termine cette émission avec Issa. Issa, bonjour.
Bonjour, sœur Stéphanie. Bon retour.
Merci, Issa. Merci. Je suis heureux de vous entendre. Vous dites qu'il faut une armée pour l'Afrique de l'Ouest, une armée de la CEDEAO.
Effectivement, effectivement. Parce que les accords d'Alger dont on parle, moi, je ne sais pas comment est-ce que nous, les Africains, nous faisons une lecture d'une crise. Le Nord, le problème du Nord ne se passera jamais par les accords d'Alger. Parce que, dites-moi, sœur Stéphanie, c'est tête passante de cette entreprise de destruction de vie humaine qui est le terrorisme. Leur repli, leur base de repli, c'est où, c'est pas en Algérie, en Mauritanie. Je ne veux pas dire par là que l'Algérie soutient les terroristes, mais c'est là leur base de repli. Et l'Algérie elle-même refuse chaque fois qu'on veut survoler son espace aérien pour combattre ces djihadistes. Comment voulez-vous que nous continuions à parler des accords d'Alger, des accords de je ne sais où au monde? Non, il faut une armée à l'Afrique.
On finira sur cette proposition, mon cher Issa, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Issa, de votre participation. Alors, Guy, vous voudrez rectifier quelque chose? Je suis désolée, on n'a pas le temps de le prendre, mais il peut laisser un message sur le répondeur au 01 55 07 58 05. Continuez le débat également sur notre page facebook.com/journaldesauditeurs ou sur Twitter. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Ce sera la libre antenne du JDA. À demain.